Ben, j'essaie les amis, comme je m'y suis plus ou moins engagé à l'égard de moi-même d'abord, de commenter et de méditer sur tout. De temps à autre, la première lecture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, bien j'aimerais que nous puissions, ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous arrêter sur la première lecture. La lecture du second livre des rois, qui nous est donné d'entendre au chapitre, quelques versets, chapitres 4 et 8. Je suis touché personnellement par cette grande amitié et la fidélité dans l'amitié que le prophète Élisée va entretenir avec la famille d'une jeune femme riche. C'est ce qui est dit au premier verset. Un jour, le prophète Élisée passait à Shunam, une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Or, c'est assez rare que l'Écriture sainte nous donne à réfléchir, à méditer sur le mystère de l'amitié. Une amitié extrêmement longue que le prophète Élisée va entretenir avec la famille de cette femme. Alors, pourquoi elle l'invite? Tout simplement parce qu'elle reconnaît en cet homme un saint homme de Dieu. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça nous rappelle que c'est par notre témoignage que nous pouvons engendrer autour de nous des relations d'amitié et d'affection. Et la maîtresse des lieux va l'inviter à déjeuner. Et puis, on imagine que l'amitié s'est mise en marche, puisqu'elle lui fait construire une chambre sur la terrasse. Alors, Élisée est tout à fait au début de sa carrière, si on peut dire. Et il va s'instaurer entre cette famille, entre l'homme de Dieu et cette famille, une relation qui symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple Israël. Alors, comme toujours, dans une amitié, il y a plusieurs épisodes ou plusieurs actes qui vont se mettre en place durant les années de cette amitié. Le premier acte qui nous fait penser à un autre passage de l'Écriture sainte, celui de Sarah, la femme d'Abraham, au chêne de Mamré, puisque le premier acte de cette amitié, si l'on peut dire, c'est la promesse d'un enfant, alors que cette femme chez qui loge le prophète Élisée était stérile. Aucune promesse ni aucun espoir de grossesse pour cette femme, puisque elle ne prend du reste pas la promesse au sérieux. Elle semble même reprocher au prophète de remuer le couteau dans la plaie en la berçant d'illusions. Prophète Élisée qui lui dira: l'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un enfant dans tes bras, etc. Ça, c'est le premier acte, je ne m'y étends pas davantage. Le deuxième acte de cette amitié, quelques années passent, et l'enfant grandit, puis un jour que cet enfant accompagne son père dans les champs pour la moisson, il est pris d'un violent mal de tête et il va mourir. Et quelques heures après, sa maman va déposer cet enfant sur le lit du prophète. Donc, vous voyez, la force de l'amitié, la conviction a fait dépasser, si je puis dire, la douleur de cette maman qui perd son adolescent, son jeune enfant, et qui va avoir ce réflexe de déposer l'enfant sur le lit du prophète, et elle court le chercher. Elle ne prévient même pas son mari, inutile de l'affoler pour rien. Elle se précipite chez Élisée. Et la première chose qu'elle lui dit, c'est: quand tu m'as promis cet enfant, Je ne t'avais rien demandé, rappelle-toi, car je ne pouvais pas y croire. Et je t'avais dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. Sous-entendu, tu m'as donné, en définitive, cet enfant que je ne réclamais pas pour me le reprendre. Et nous devinons la suite, hein, effectivement, Élisée va ressusciter l'enfant. Le troisième acte, quelques années encore passent, et fidèle à cette amitié, Élisée va sauver cette famille, une fois de plus, de la famine imminente. Et bien évidemment, cette famille va émigrer dans une région, une autre région que celle qu'ils habitaient, et en revenant dans cette région, évidemment, ils vont trouver leur maison et leur champ occupés, et là aussi, Élisée va faire en sorte qu'ils vont retrouver leur habitation et leur richesse, puisque le texte nous dit bien que cette femme était riche. C'est là le quatrième acte. Alors, au-delà de l'histoire qui est touchante, enfin que je trouve touchante pour ma part, si la Bible s'étend si longuement sur l'histoire d'une famille et de son lien d'amitié avec le prophète, Élisée, c'est pas simplement pour raconter quelque chose de sympathique. Non, l'auteur a toujours un but théologique et spirituel, qui est là, très clair à mon avis, de nous faire connaître et vivre la proposition d'alliance de Dieu. Et ici, cette longue alliance entre le prophète Élisée et une famille de Sunam, c'est l'image de l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. Et donc le prophète est tout simplement, entre guillemets, le représentant de Dieu, il est l'image de Dieu. Et nous sommes invités à adopter tout simplement l'attitude de cette famille. Ce prophète étant l'image de Dieu, on peut relever un certain nombre de qualités et de valeurs, si on peut dire, qui habitent l'alliance de Dieu au travers de cette histoire d'amitié. C'est la durée, hein, la fidélité de Dieu, que pas même l'incrédulité de cette femme riche qui ne croit pas qu'elle pourra avoir un enfant ne rebute pas. Cela ne rebute pas le Seigneur. Ensuite, la sollicitude sans faille de l'homme de Dieu pour son hôtesse, qui dit bien tout simplement et qui parle de la sollicitude de Dieu à notre égard, tout simplement, pour chacune d'entre nous. Et cette sollicitude va jusqu'à vouloir habiter parmi nous. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son propre Fils. Donc, le Fils unique de Dieu, prenant notre nature humaine, vient habiter au milieu de nous. Et puis, on a bien vu, le prophète va redonner à sa femme tous ses biens, qui évoquent la promesse de Dieu de redonner à Israël sa propre terre, comme Élisée a redonné la propriété qui avait été récupérée pendant l'absence de la famille à cette image très belle que Dieu redonne à Israël sa propre terre. Et la promesse de la naissance, voilà. Et la résurrection de l'enfant, alors là c'est très clair, hein. C'est le signe, j'allais dire le sceau, la marque absolue que Dieu est le Dieu de la vie, tout simplement, et que la vie l'emporte sur toute espèce de mort. Et l'attitude de la femme nous est donnée également en modèle, pas simplement l'attitude du prophète. Un modèle très simple que nous pouvons tous suivre, accueillir le prophète en sa qualité de prophète, comme le dira plus tard le Seigneur Jésus-Christ, et faire une confiance totale. Oui. Voilà cette histoire qui prépare dans le Nouveau Testament toute l'histoire que le Christ va instaurer en fidélité, en confiance, en don de lui-même, en restauration de la vie par le mystère de la résurrection. Bref. Une fois de plus, nous prenons conscience de l'importance de l'Ancien Testament dans la lecture du Nouveau Testament et combien le Nouveau Testament s'inspire de tout ce qu'il peut y avoir dans l'Ancienne Alliance et, à la limite, c'est normal, de bénéfique pour nous et d'évocateur à bien des égards. Amen.